Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Antoine Dreyfus. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté de participer à cette émission.
Bonjour, merci de m'inviter.
Chers auditrices, auditeurs, Antoine Dreyfus est journaliste d'investigation. Il a été grand reporter pendant 15 ans pour l'hebdomadaire VSD. Il est également auteur et réalisateur de documentaires. Après avoir été reporter en presse écrite pour le quotidien du Médecin, Le Parisien, JDD, VSD, il se consacre aux enquêtes de terrain. Il a mené en 2018 l'enquête de Cache Investigation sur les pesticides, qui est devenu le livre toxique coécrit avec Martin Boudot, publié par Les Arènes en 2016. On lui doit également La France qui gronde, qu'il a écrit avec Jean-Marie Godard, publié aux éditions Flammarion en 2017. Son dernier livre est La 5G, Mauvaises ondes, publié le 14 janvier par les éditions Massot. La 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle succède à la quatrième génération, appelée 4G, et prolonge l'exploitation technologique LTE, qui signifie Long Term Evolution. Voici ce qui est écrit sur la quatrième couverture de ce livre. La 5G est arrivée en France. Cela signifie pour certains la victoire du lobbying, un nouveau danger pour la santé, un épuisement des ressources, une surveillance accrue de la population et une dépendance vis-à-vis de la Chine. Pour d'autres, c'est une évolution technologique majeure qui nous fera pénétrer dans une ville intelligente, la Smart City, dotée de débits 10 fois supérieurs. En France, les opérateurs Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Télécom s'implantent déjà dans les villes pilotes comme Marseille, Nice et Lyon. C'est donc de tout cela que nous allons discuter avec Antoine Dreyfus. Et je vais commencer par faire référence à des déclarations politiques, et le président de la République, Emmanuel Macron, a plaidé pour le déploiement de cette nouvelle technologie mobile contre ceux qui préféreraient, selon lui, le modèle Amish et voudraient revenir à la lampe à huile. Tout le monde se souvient de cette déclaration d'Emmanuel Macron. Et Antoine, la 5G, est-ce vraiment une révolution ?
C'est toute la question, en fait, de ce livre et des interrogations des spécialistes. En fait, la 5G telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est vendue, entre guillemets, par notamment l'Union européenne, et par tous les fabricants, dont les Chinois et Huawei en premier, elle est vendue comme une révolution, c'est-à-dire en fait, mais c'est vraiment vendu comme une quatrième révolution industrielle, hein, après la révolution numérique, donc la révolution des réseaux, où on serait hyper connecté tout le temps, en tout lieu, à tout moment, avec des villes intelligentes, avec des robotisations partout, avec la capacité de pouvoir, par exemple, suivre l'arrivée de son bus tout le temps, enfin voilà, d'être vraiment hyper connecté. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est totalement invisible. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes, on ne les voit pas, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Alors ça, c'est la vision que tout le monde, enfin que les promoteurs de la 5G vendent. Les opposants disent que c'est peut-être un mythe. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, ce qu'on voit de la 5G, c'est une super 4G, en fait. C'est-à-dire, en fait, des débits plus rapides et la possibilité, en tout cas, d'avoir, par exemple, plus de films, plus de data, donc de pouvoir télécharger assez vite des films sur des plateformes de streaming, choses comme ça. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas encore si c'est une révolution. C'est ça toute la question, quoi. Alors, si c'est une révolution, en fait, ça pose un certain nombre de questions et de problèmes dont il faut débattre.
Comment fonctionne la 5G? Est-ce qu'elle utilise les antennes existantes ou est-ce qu'il faut implanter de nouvelles antennes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour implanter la 5G?
Alors la 5G, donc c'est la cinquième génération de réseau. Ce sont c'est à la fois des nouvelles antennes, des grandes antennes qui sont dites plus intelligentes, c'est-à-dire qu'en fait l'onde est plus courte, et l'onde électromagnétique est plus courte, le signal est plus court, donc elle nécessite aussi l'implantation de beaucoup plus d'antennes et de capteurs. Et c'est ça d'ailleurs qui fait dire à certains qu'il y a probablement un problème et des soucis, en tout cas pour des gens qui sont sensibles à ça. Et ça va nécessiter, si les plans sont prévus comme une quatrième révolution industrielle, ça va nécessiter l'implantation d'énormément d'antennes. Un peu partout, dans du mobilier urbain, parce qu'en fait, les ondes sont plus courtes et donc elles s'arrêtent facilement, elles sont facilement arrêté par tout un tas d'obstacles, les bâtiments, les poteaux, etc. Donc, en fait, ça va nécessiter, si c'est prévu comme cela, énormément de d'antennes. Donc, on voit il commence à y avoir des oppositions assez fortes, très radicales à la 5G, avec des incendies d'antennes. Le sujet est devenu très politique, très, 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 très difficile, avec des gens qui sont opposés de manière très radicale et sans concession à la 5G. Voilà.
Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les ondes de la 5G soient diffusées par les satellites plutôt que d'implanter de nombreuses antennes et d'occuper la surface terrestre.
Alors techniquement, il y a les deux choses qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la technique assez classique d'antennes, d'antennes relais, et il y a aussi des projets, notamment aux États-Unis, d'envoi de satellites pour la diffusion de la 5G. Et c'est notamment une société d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui a un projet de... Mais là aussi, c'est assez compliqué parce que le ciel de l'espace est déjà quand même pas mal occupé. Et là, ça nécessiterait l'envoi d'à peu près 20 000 satellites. C'est énorme. Et il faut s'imaginer que la mise en place de la 5G telle qu'elle est prévue, c'est-à-dire vraiment cette hyper-connectivité, ça va nécessiter des millions d'antennes. Vraiment, c'est assez impressionnant, en fait. Donc c'est un projet industriel d'ampleur considérable. Il faut avoir ça en tête parce que, en fait, nous, on ne voit pas cette partie immergé de l'iceberg qui est, il y a des data centers, il y a toute une infrastructure, il y a un côté industriel qui est assez impressionnant dans la 5G.
Les médias commencent déjà à nous habituer à l'utilisation de ces nouvelles technologies. On nous parle du réfrigérateur intelligent, de la voiture intelligente, de la domotique individuelle, enfin de plein de technologies qui sont déjà anciennes, mais qui ne se sont pas véritablement développées parce que limitées aux possibilités des technologies qui existaient. Aujourd'hui, ce qui est le plus développé en matière de domotique, ce sont les alarmes domestiques, les alarmes de sécurité. C'est à peu près le seul marché qui se soit développé, mais qui est quand même très limité par les connexions téléphoniques, qui aujourd'hui peuvent passer par des téléphones portables, mais ça reste quand même très très limité. On n'en est pas encore à aller faire les courses sans avoir préparé sa liste de produits à acheter, mais qui serait envoyé par le réfrigérateur ou le stock qui est existant dans les placards.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la 5G, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire, en effet, ces objets hyper connectés, le frigidaire qui, si vous n'avez plus de lait, vous demandera sur votre appareil, sur votre smartphone, si vous avez besoin d'acheter du lait, et qui enverra la commande à une grande plateforme qui commence par un A, et qui a déjà prévu d'ailleurs des drones de livraison.
C'est ça. Voilà.
Et alors, en fait, le frigidaire connecté ou la domotique, ce sont des choses assez amusantes et assez plaisantes. Mais il faut s'imaginer que derrière, il y a un rouleau compresseur industriel très, très fort, quoi. Et autant l'utilité de la domotique, elle s'avère assez juste, enfin, assez utile. Hein, enfin. Autant le frigidaire connecté, on peut se poser des questions, parce qu'en plus, ça implique aussi, si on réfléchit bien en termes d'usage, à, comme vous dites, quel est l'intérêt pour une dame qui a 78 ans ou 80 ans et qui elle regarde dans son frigidaire ce qui lui manque et puis elle fait sa liste et puis elle descend, elle fait ses courses, elle prend son temps, il y a du lien social. Là, c'est une espèce de vision un peu à la Blade Runner qui, alors moi en tant que technophile, m'intéresse, hein, c'est-à-dire que je trouve ça assez sympa, mais en même temps, c'est pas trop la vision d'une société que je veux. En fait, c'est ça très, très, très chouette, quoi. Comme, voilà.
Et, oui, on se retrouve avec Orwell dans des
manipulations. Voilà, c'est ça.
Le consommateur ne pourra plus forcément choisir la marque de lait qu'il souhaite.
Parce qu'elle sera en rupture de stock et qu'on vous imposera cette. Voilà, il faut voir que les enjeux industriels sont très très forts. Et donc, oui, l'Internet. Alors, en plus, l'Internet des objets existe déjà. Vous pouvez déjà, en effet, la domotique, ça existe déjà et ça fonctionne. Ça peut être très utile, notamment pour les économies d'énergie, c'est-à-dire reprogrammer son chauffage une heure avant, rentrer quand il fait froid, oui, ça c'est très bien ça. Après, en matière de technologie, ce sont les usages qui prévalent. C'est-à-dire que, ça la sociologie l'a bien montré, c'est-à-dire que s'il y a une adhésion des usages, enfin des consommateurs, si les consommateurs trouvent ça super, frigidaire connecté, ça peut s'imposer, ça peut se, voilà. Après, en fait, c'est vraiment l'usage qui fait que ça fonctionne, ça marche ou pas. Les industriels peuvent pousser en effet la consommation, c'est-à-dire en fait en abaissant les coûts, mais tant que ça restera cher et un peu gadget, on risque de pas le voir avant longtemps, quoi. Mais tout ça, c'est les usages, en fait.
Oui, mais ça suit le même process, enfin, le même procédé que tous les ce que l'on appelle les gadgets novateurs, mais qui ne le sont pas. La voiture autonome, je l'ai connue circulant dans un espace clos dans les années 85-90.
Oui, c'est ça.
Mais aussi tous les accessoires qui vont avec. Aujourd'hui, le GPS, c'est devenu une habitude complètement habituelle.
Oui,
Et on ne saurait presque plus s'en passer.
tout à fait. Oui, tout à fait.
Mais de la même manière, je travaillais à cette époque-là avec un consortium automobile qui rassemblait Peugeot, Citroën, Fiat et Volkswagen. Et qui ont travaillé sur les véhicules de demain et les accessoires de demain. Donc l'absence de rétroviseur, ça s'est pas encore installé dans les voitures. C'était des caméras qui filmaient ce qui se passait devant, derrière et autour de la voiture et qui envoyaient tout cela sur un tableau de bord. Mais c'était aussi le GPS avec des cartes qui étaient projetées à 2 mètres au-delà du pare-brise, pour qu'il n'y ait pas les effets d'accoutumance visuelle. Donc, on n'avait pas besoin de déplacer sa vue du tableau de bord jusqu'à la route. Mais il y avait aussi ce qui existe sur pas mal de voitures de qualité supérieure avec les alarmes d'obstacles. Voilà. Donc tout ça existait. Enfin, moi, j'ai vu ces voitures équipées il y a 40 ans.
Oui, tout à fait, mais est-ce que...
Et donc ça ne vient dans le marché public que lorsque ça a été suffisamment rentabilisé sur les voitures de luxe, et ensuite c'est largement diffusé.
Oui, c'est ça. Oui,
Vraiment.
mais sur le, sur, vous avez raison de souligner l'histoire de la voiture connectée, parce que c'est un des grands trucs de la 5G, c'est cette connectivité des... Alors, moi, j'ai interrogé un spécialiste de ça, qui s'appelle William Webb et qui est à Cambridge. Et lui, c'est un spécialiste de l'Internet des objets. Et lui, en fait, il a fait toute une étude de marché. Et lui estime que, en fait, cet Internet des objets, il n'y a pas suffisamment de marché. Et en fait, dans l'écosystème de la 5G, donc en fait, l'État, en France en tout cas, attribue des licences aux opérateurs, hein, et donc elles achètent un droit de pouvoir émettre, et après, elles commercialisent des abonnements et des solutions. Et en fait, les opérateurs sont pas super enthousiastes. Alors, en apparence, oui, mais... Quand on discute avec eux un petit peu en off, ils ne sont pas super enthousiastes parce qu'ils ont du mal à rentabiliser ces licences qui quand même coûtent très cher. Et donc, l'idée de la 5G, c'était d'avoir cette dimension industrielle pour pouvoir rentabiliser en effet ces licences de la 5G. Après, la voiture connectée, c'est compliqué parce que technologiquement, en effet, il faudrait des... Des antennes partout, 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 quoi.
Le GPS suffit
J'ai suffi, voilà, c'est ça.
parce qu'aujourd'hui on sait bien qu'à partir d'un satellite on sait repérer un individu à 1 mètre près. Pour assurer la sécurité automobile, ce n'est pas encore suffisant, mais peut-être qu'avec quelques efforts technologiques, on devrait réussir à justement à diminuer cette distance. Mais bon, on connaît quelques prouesses militaires où des véhicules ou des personnes sont tuées par des drones ou détruites par des drones commandés à partir d'un satellite.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Technologiquement, ça paraît possible.
Oui.
Après, on va se trouver devant la difficulté de responsabilité, qui est le responsable, le fabricant de l'automobile, le conducteur, le possesseur de l'automobile. Enfin, on va se trouver dans des difficultés juridiques, mais c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose. Après, en effet, il y a toutes les problèmes de sécurité, c'est-à-dire En effet, et ça, c'est pas mal souligné par des spécialistes des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des vulnérabilités sur la 5G. Et donc, il y a des scénarios absolument catastrophiques, enfin, pour justement parer à toute éventualité où quelqu'un, des hackers, pourrait prendre possession, par exemple, de tous les feux de signalisation aux États-Unis et provoquer des accidents monstrueux avec les voitures. Donc, imaginez avec des voitures connectées ce que ça pourrait faire. Donc, voilà, il y a une dimension industrielle dans la 5G qui pour l'instant, en fait, n'est pas trop prise en compte. C'est-à-dire, en fait, dans ce fameux débat entre les Amish et les progressistes que le président de la République a initié, en fait, il faudrait vraiment qu'on ait un vrai débat citoyen sur ces technologies, parce que c'est indispensable. Alors, Paris l'a fait, hein, dans un cadre municipal, il y a des débats citoyens. Et il faudrait pouvoir le faire. L'ancien président de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation, a demandé qu'il y ait un contrôle citoyen, en fait. Parce qu'en fait, ça a des implications énormes. Donc, moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait des débats citoyens là-dessus, qu'il y ait de la confrontation. On ne peut pas dire, le président de la République ne peut pas dire, c'est le progrès et on va faire comme ça. Voilà, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des débats, il faut même peut-être qu'on s'engueule dessus, enfin voilà, et qu'il y ait des arguments et contre-arguments, mais on peut pas dire. Parce que par exemple, j'avais été assez frappé de ce qui s'est passé en Italie. En Italie, il y a eu des tremblements de terre dans une région, dans les Abruzzes, et bon. Il y avait pas mal d'infrastructures qui ont été démolies, de ponts, de routes, d'habitations. Et ils ont installé la 5G en marche forcée. Donc, il y a eu une opposition très forte des citoyens parce que on leur proposait la 5G, mais on ne réparait pas. Donc, vous aviez des infrastructures indispensables à la ville qui n'étaient pas réparées. Donc, quel est le progrès là? Est-ce que le progrès, c'est de pouvoir communiquer en 5G ou de pouvoir circuler et d'avoir un pont et des infrastructures, des écoles? Enfin, voilà, c'est ça en fait la question. Et donc, moi j'avais été assez énervé comme Éric Piolle, par le discours du président de la République quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, bah non, non, c'est pas possible, il ne peut pas nous dire ça. Alors, bon, il s'adressait à des gens de la
Il y a
French
des chefs
Technologie,
d'entreprise, des gens qui étaient plutôt
entreprise, voilà.
intéressés par les nouvelles technologies.
Mais on ne peut pas jouer le match des progressistes contre les conservateurs. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Parce que chacun sait qu'une technologie, comme on se disait avant l'interview, le marteau. Ça peut taper sur un clou, ça peut faire du bien, et puis ça peut faire du mal aussi. Voilà. Donc, il faut prendre en compte cet aspect-là.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens, des pouvoirs citoyens, politiques, pour amener justement ce débat sur la place publique? Aujourd'hui,
Alors
ça ne
ça,
semble pas.
c'est une
Aujourd'hui,
très bonne question, parce que par exemple, il y a plusieurs éléments. Dans la procédure d'attribution des licences à la 5G, normalement, il était prévu que un organisme d'État, l'ANSES, donne son avis sur l'aspect santé et 5G. Et donc, ça aurait normalement dû être pris en compte. Et en fait, en discutant avec les associations, on s'aperçoit que tout le processus d'attribution des licences a été fait sans tenir compte de l'avis de l'ANSES. Donc, en fait, ils ont rempli des cases. Oui, on a vu un tel, on a vu un tel, et puis basta, et puis voilà, et ça s'est fait à marche forcée. Donc, alors, il y a eu des tribunes d'élus verts, notamment, qui ont demandé un moratoire sur la 5G. Concrètement, il y a quelques communes qui se sont opposées, qui ont pris des arrêtés municipaux. Mais concrètement, elles n'ont pas de pouvoir de de stopper ça. Donc, le seul moyen, il est d'ordre juridique en effet, mais le Conseil d'État a un peu retoqué toutes les associations. Et donc, il faudrait soit que l'État mette en œuvre un processus de parole citoyenne là-dessus, parce que moi, je crains qu'il y ait, et on commence à le voir, des oppositions très radicales à la 5G qui émergent, donc avec des incendies, avec des destructions de matériel. Et ça, c'est jamais bon, parce qu'il faut pouvoir dialoguer, quoi. Il faut qu'il y ait une parole citoyenne qui s'exprime là-dessus, quoi. Donc, pour l'instant, non, le cadre, il n'y a pas de cadre, mis à part, en fait, Paris qui a institué un dialogue citoyen. Et je pense, peut-être Marseille va le faire, en tout cas, on en parle ici. Pour l'instant, non, l'État n'a rien mis en place et c'est bien dommage, quoi.
Je lisais ce matin que 6 ONG ont déposé plainte contre l'État français à propos des outils de reconnaissance faciale. Donc on peut, enfin, on peut imaginer, espérer que d'autres associations ou les mêmes associations poseront des recours contre l'implantation de ces antennes, contre l'autorisation, la distribution des licences. Et ça ne me paraît pas être une exclusive des Verts, des écologistes. Toutes les classes politiques, tous les partis politiques peuvent se sentir concernés par l'implantation de ces nouvelles technologies et peuvent avoir envie d'en discuter. Mais aujourd'hui, je ne sens pas cette envie, cette agitation en disant non, mais on ne sait pas, parce que manifestement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été menées pour mesurer les effets sur la santé des gens qui seraient à proximité d'une nouvelle antenne.
Oui, c'est parce que en fait, c'est assez complexe. C'est-à-dire que les effets sur la santé sont assez complexes. Il y a des études qui disent que ça a un effet. Notamment, il y a une grande étude américaine qui mesurait ça sur des rats, qui en gros disait que les ondes électromagnétiques pouvaient avoir un effet probable cancérigène. Hein. Et ça a été aussi relayé par le Centre de recherche international sur le cancer, qui est basé à Lyon, qui l'a classé comme cancérogène probable. Ce qu'il y a, c'est que pour la 5G, on ne sait pas pour l'instant. En fait, comme il n'y a pas eu d'étude d'impact, c'est assez compliqué de savoir. Alors, il y a eu un appel de scientifiques qui, au niveau mondial, qui a fait peur de ses craintes, parce qu'en effet, la technologie de la 5G est un peu différente, comme je vous expliquais au début, hein, ce sont des ondes très courtes, donc avec des signaux courts, et qui demandent de multiplier le nombre d'antennes. Donc, eux craignent en effet qu'il y a un effet exponentiel. De toute façon, statistiquement, inévitablement, il y aura plus de gens sensibles à ça. Et d'ailleurs, moi je l'explique dans le livre, il y a tout un chapitre sur ce qu'on appelle les électrosensibles. Et donc ce sont des gens qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Je me souviens quand je travaillais à VSD dans un service qui s'appelait Planète Techno, on se moquait un peu de ces gens-là, honnêtement. Ils passaient pour un peu des fous. Et puis en fait, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même pas mal de gens assez sensibles à ça, et notamment en Suède, c'est considéré comme une pathologie, une affection, et c'est pris en compte par la sécurité sociale suédoise. Pardon. Et donc, ça commence à venir. Mais c'est vrai que, inévitablement, statistiquement, on va probablement aboutir à 8 milliards de téléphones portables dans le monde, hein. Donc, inévitablement, il y aura des gens qui seront sensibles à ces ondes-là. Voilà, c'est à peu près inévitable. Après, la difficulté, c'est toujours le lien de cause à effet. C'est-à-dire, dans ces histoires de santé-environnement, c'est toujours le lien de cause à effet. On l'a vu avec l'amiante, alors qu'il n'y avait qu'un seul produit et une maladie ou deux maladies reconnues, enfin, dont on savait que c'était lié à l'amiante, ça a mis, c'est connu depuis les années 30 et ça a mis des années à surgir parce qu'en fait, ce sont des profs de fac de Jussieu qui se sont emparés du sujet, quoi. Voilà. Mais entre-temps, il y a des ouvriers qui sont morts de l'amiante sans qu'on le sache vraiment, quoi. Donc, voilà, donc le lien de.
On observe la même situation à propos du glyphosate, dont tout le
Voilà.
monde aujourd'hui est convaincu des effets dangereux de ce produit, et qui continue à être utilisé.
Voilà, après, sur les ondes électromagnétiques, c'est. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez complexe cette histoire-là. Bon, après, les autorités sanitaires recommandent d'utiliser des kits main libre, de faire attention quand on est une maman enceinte et attention aux enfants. Voilà. Donc,
D'habiter dans une cage de Faraday.
voilà. Mais voilà, après, il y a des alternatives qui existent. Hein. En tout cas, par exemple, pour le Wi-Fi, il y a une alternative qui s'appelle le Li-Fi, qui sont Là, ça passe par la lumière. Ce sont des données numériques. C'est une sorte de Wi-Fi écolo. Et il y a plusieurs sociétés françaises qui sont, comment dire, très bonnes là-dedans et qui sont en pointe. Et ça marche très bien. Hein. Donc, et après, pour l'Internet, il n'y a rien de mieux que la fibre optique. Hein. C'est ce qui a probablement de. Enfin, ce qui est plus sûr et de plus fiable et de plus performant, quoi. Donc, toute cette histoire en plus, toute cette histoire de la 5G, elle est liée en fait à l'Internet mobile, c'est-à-dire en fait cette espèce de volonté de vouloir être joignable et d'aller sur Internet partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. La question qu'il faut se poser.
Justement, est-ce qu'il y a une volonté de domination politique, géopolitique, économique, autour de ces nouvelles technologies?
Ah ben clairement, bien sûr, bien sûr. En fait, toute la 5G, tout l'enjeu, c'est le leadership mondial du commerce mondial. Et si les Chinois ont loupé la 3G et la 4G, ils se sont emparés de la 5G il y a quelque temps, et ils sont leaders, et ils ont vraiment un coup d'avance, voire deux coups d'avance. Donc là, ça donne lieu à des luttes, à des guerres commerciales monstrueuse hein, avec les États-Unis. Alors avec Trump, ça avait pris des proportions assez considérables parce que lui avait désigné en effet, à la vindicte, la Chine et puis Huawei, notamment. Hein, en fait, la Huawei, c'est l'État chinois. Hein. Mais je pense qu'avec Biden, ça va être un peu la même chose. Hein. Ça va être
Ouais,
moins affirmé.
moins spectacle, mais.
Voilà, moins un spectacle, mais en fait, l'objectif est le même. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le soft power, hein, c'est-à-dire en effet tout ce qui relève de ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ce soft power, pour l'instant, la Chine ne l'a pas. Mais elle a un coup d'avance sur la 5G. Et donc, en fait, ça donne lieu en sous-main, ça je le raconte, à des histoires qui relèvent de la guerre froide et de l'espionnage. Hein, mais vraiment. Donc, avec des employés de Huawei qui sont accusés par les États-Unis d'avoir voler des documents sur un robot. La fille du fondateur de Huawei qui est incarcérée, qui est poursuivie par les États-Unis. Voilà, et puis en effet, avec des mesures de rétorsion des États-Unis sur les semi-conducteurs chinois, et donc avec Huawei qui a un peu fléchi, qui a un peu pris un coup dans les reins, et puis tout un lobbying forcené, très fort, de Huawei, notamment en France, parce qu'en fait, ils ont embauché beaucoup de gens. Ils ont notamment embauché Jean-Louis Borloo, qui était devenu directeur des affaires publiques. Ils ont failli même le nommer président du conseil d'administration. C'était un projet. Il y a ce lobbying forcené. Ils ont cinq centres de recherche, dont un à Sophia Antipolis avec des chercheurs vraiment de haut niveau, hein, parmi les meilleurs mathématiciens au monde. Ils ont le projet d'une implantation d'une usine en France. Donc, commencer la désindustrialisation forcenée qui existe depuis 20 ou 30 ans en France. Voilà, ils font eux aussi du soft power, c'est-à-dire. Et tout ça est très très bien fait, hein. Tout ça est très très bien fait, tout ça est très. Et donc derrière, en fait, la 5G, c'est en effet qui sera le leader mondial de l'économie. Et pour l'instant, je dirais qu'il y a un peu égalité entre les États-Unis et la Chine, mais les États-Unis ont vraiment un train de retard. Ils avaient même envisagé à un moment donné pas de nationaliser, parce que ce n'est pas dans la culture américaine, mais de monter un fonds d'investissement avec des fonds de l'État américain pour, par exemple, acheter Nokia ou Ericsson. Parce qu'il faut bien comprendre que les équipements, les relais, les antennes, il y a trois fabricants au monde. Il y a Huawei qui est vraiment largement au-dessus. Enfin, il y a même quatre fabricants. Il y a Huawei, il y a ZTE qui est chinois aussi, qui est un peu en dessous. Et puis après, il y a Nokia et Ericsson. Donc Nokia qui est finlandais, Ericsson qui est suédois. Et en fait, Ericsson et Nokia, ce sont des sociétés entre guillemets américaines. Voilà. Parce que Nokia, par exemple, a racheté Alcatel-Lucent, donc une société américaine. Ça, il faudrait qu'on s'appesantisse un peu sur Alcatel, parce que ça, c'est un de mes dadas. C'est-à-dire qu'Alcatel, c'était quand même une entreprise française numéro un mondial en télécommunication. Ils ont loupé la 3G, ils ont loupé la 4G, ils ont tout loupé. Et en même temps, il y a eu tout un système de prédation américain qui fait que, en fait, ils ont récupéré tous les brevets d'Alcatel, quoi. Et Alcatel n'existe plus en tant que tel. Donc, nous, Français, alors que nous avions probablement les meilleurs ingénieurs et les meilleurs techniciens, nous sommes complètement à la ramasse, là. Et donc, en fait, en plus, dans cette histoire de 5G, on est dépendant industriellement des Chinois et des Américains. Et on n'a plus de marge de manœuvre. Où vraiment c'est à la marge, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, qu'il faut prendre en compte aussi. C'est-à-dire que tous les pays. Alors, il y a eu l'idée à un moment donné d'un consortium européen, un peu à l'image d'Airbus, pour monter une sorte de Huawei européen, quoi. Mais bon, en ce moment, vu la crise du Covid et tout ça, je pense que ça ne se fera pas, quoi. Et puis, je ne sens pas non plus un gros engouement des consommateurs sur la 5G. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, voilà. Vraiment, je pense que les considérations sont pas sur est-ce que je vais pouvoir télécharger plus vite des films sur Netflix, quoi, voilà. Il y a des choses plus importantes qui se jouent en ce moment. Voilà. Et après, du côté des opérateurs, on sent bien qu'il y a une espèce de pas de frustration, mais ils aimeraient bien que ça avance un peu plus vite. Alors, Xavier Niel de Free a fait une publicité qui est assez maligne, qui reprend les codes du film Hold Up, et qui se moque des conspirationnistes, c'est très malin. Stéphane Richard d'Orange, lui, a fait une interview au JDD dans laquelle il parle de l'environnement, il met l'accent sur l'environnement, et puis il parle aussi de l'obscurantisme qui existe en matière de nouvelles technologies. Donc ils essayent d'impulser un peu, mais ça prend pas vraiment. Monaco, par exemple, qui a lancé la 5G il y a un an et demi, ils ont très peu d'abonnés. Ils ont même pas. J'ai demandé plusieurs fois le nombre d'abonnés, on ne m'a jamais répondu. Donc, on m'a dit que, en effet, j'avais demandé ça l'été dernier, donc il n'y avait pas encore le nouvel iPhone 12 qui est compatible 5G. Donc, ils m'ont dit, bon, les gens attendent. Mais en fait, je pense que ça, la préoccupation actuelle des Français et des autres Européens, elle est un peu ailleurs. Quoi. Elle est sur cette sortie de crise sanitaire, et sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, mais pas trop sur la 5G.
Oui, mais sinon que les spécialistes de la communication et du marketing sauront trouver des arguments pour donner envie aux consommateurs de s'abonner à la 5G, de changer de téléphone portable. Et peut-être qu'on va trouver de nouveaux smartphones à des prix raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone d'Apple, l'Apple 12, je crois que c'est 1 200 €. Donc ça,
oui, c'est ça. Mais c'est quand même très cher.
C'est une vraie dépense.
Donc, oui. Et puis, les smartphones chinois qui sont de bonne qualité sont quand même à 500-600 €, je crois. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Je pense qu'en plus, tout le monde attend un petit peu que les prix baissent, oui, parce que là, pour l'instant, c'est très cher. Et puis même le service, pour l'instant, en fait, la 5G n'existe que dans quelques dizaines de villes en France, de manière pas vraiment expérimentale, mais en fait de manière assez limitée. Donc, et encore une fois, ça ne résout pas le problème de certains territoires qui sont pas couverts, hein, en plus. C'est un peu, en fait, on a un peu l'impression de revivre, c'est un peu un jour sans fin, en fait, avec ces histoires de 3G, 4G, 5G. C'est-à-dire qu'un bout de moment, en fait, dans les villes, les réseaux sont saturés. Et donc, on sort une nouvelle génération pour désengorger les réseaux. Et ça, les constructeurs, enfin, les opérateurs m'en ont parlé, Monaco Télécom m'en a parlé aussi. C'est vrai que, mais c'est lié aussi à la consommation des gens. Fait qu'en fait, au bout d'un moment, les réseaux saturent. Puis on consomme plus de données, on consomme plus d'images, et on va vers ça. Hein. Toutes les applications qui fonctionnent, enfin qui marchent et qui cartonnent en ce moment, c'est des applications comme TikTok qui ne fonctionnent que sur la vidéo. Quoi. Donc là, c'est très consommateur d'énergie. Quoi. Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, les prix vont baisser, qui vont essayer d'attirer les gens sur la 5G, oui. Et après, en effet, une fois qu'on y a goûté à la vitesse, en fait,
on ne peut plus s'en passer.
On ne peut plus s'en passer, voilà, c'est ça.
Je ne me vois pas revenir au téléphone à cadran.
Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Et puis, de toute façon, ça apporte aussi son lot d'avantages. Hein.
Bien sûr, ça apporte du confort, ça apporte un accès à l'information qui est extraordinaire.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Après, c'est moi ce qui me fait un peu peur, c'est cette vision des réseaux des réseaux tentaculaires, enfin, pas tentaculaires, mais cette vision un peu de science-fiction orwellienne, notamment la surveillance, la reconnaissance faciale. Enfin, ce qui s'est passé par exemple en Chine avec les Ouïghours est assez inquiétant parce qu'en effet, ils ont fiché la population ouïghour avec la reconnaissance faciale. Hein. Donc, voilà, il y a besoin de contre-pouvoirs, de contrôle citoyen sur ces technologies-là. Voilà, il faut l'avoir en tête, quoi. Oui. Alors, dans un pays comme la France, un pays démocratique, normalement, on doit pouvoir.
On peut rester raisonnablement optimiste.
On peut rester raisonnablement optimiste.
Pas davantage.
Voilà, mais il ne faut pas être naïf quand même. Voilà. Moi, je pense qu'il faut confronter ces choses-là au pouvoir politique, quoi. D'autant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, les responsables des organismes de régulation font des tribunes très explicites dans lesquelles ils disaient oui, il y a des implications au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau santé, au niveau des contrôles de liberté publique et tout ça. Donc, il faut pouvoir. Que les citoyens, il faut que les citoyens exercent leur contre-pouvoir. Quoi. Et donc ça, il faut absolument que ça se fasse, quoi. Il faut absolument le faire, hein. Parce qu'en plus, même en matière de sécurité, quand on écoute ce que dit le patron de l'ANSI, qui est un peu l'équivalent de la NSA américaine. Il dit que la 5G va nous faire rentrer dans une ère de sécurité globale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut pas mettre ça de côté, quoi. Voilà. Il faut pouvoir en parler. En fait, il y a toujours un prix à payer dans une technologie. Donc, c'est bien de savoir quel prix on va payer. Voilà.
Lundi, je recevais Maria Moyal, qui est doctorante au laboratoire Parole et Langage qui est au CNRS à Aix-en-Provence. Et elle travaille, elle, précisément sur l'analyse du sourire. Oui. Avec des outils de reconnaissance faciale, des outils d'intelligence artificielle. Et je lui ai envoyé ce matin cette information à propos des ONG qui ont porté plainte contre l'État français. Elle disait, c'est bien parce que tout ce que l'on développe dans nos laboratoires a besoin d'une veille citoyenne, a besoin de garde-fous pour que ces outils ne soient pas utilisés n'importe comment.
Oui, c'est ça, oui. Il y a besoin de garde-fous. Oui.
Mais Martine Vassal, la semaine dernière, proposait à la ville de Marseille de débloquer, je ne sais plus combien de milliers d'euros pour installer davantage de caméras de surveillance.
Ouais.
Alors, peut-être qu'il y a besoin des caméras de surveillance, mais derrière les caméras de surveillance, il y a besoin de personnel pour qui vérifie ce qui se passe, au moins qui regarde et qui donne des alertes. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Est-ce qu'elles sont détruites rapidement ou est-ce qu'elles sont conservées? Est-ce qu'elles servent à faire de l'identification, donc à renseigner des fichiers? Parce que c'est bien ça le danger. Alors, aujourd'hui, on peut se satisfaire quand celui qui a commis une infraction ou un crime est retrouvé grâce à son ADN, mais en même temps, c'est quand même hyper dangereux, parce que demain, au-delà de la carte d'assuré social, on aura aussi la carte de comportement social.
Oui, ce qu'on voit en Chine, notamment.
Et où seront renseignés nos sympathies politiques, nos appartenances syndicales, nos activités associatives, tout ce qui fait les individus. Et ça, je crois que ça doit rester de la part secrète de chacun.
Oui, exactement.
Comment dire qu'on appartient à telle ou telle association, à telle ou telle communauté, mais que ça ne doit pas être utilisé ni pour en faire un outil de pouvoir individuel, ni pour que ce soit un outil de répression collectif.
Oui, d'autant que vous parlez de la reconnaissance faciale, mais c'est vrai que il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'était encore balbutiant, mais là maintenant c'est devenu
Ça marche très très bien.
très très performant. Et en Chine, en effet, cette idée de contrôle social, elle est très très présente, hein.
C'est le nouveau téléphone d'Apple qui se connecte au travers de la reconnaissance faciale.
Oui, tout à fait, exactement.
Là aussi, enfin, Apple est passé de la reconnaissance digitale à la reconnaissance faciale. Donc, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés par les services de la police. Hein, où il y avait les, et c'est pas très ancien, hein, le fichier digital. C'est moins de 50 ans. Donc, la police est passée de ce fichier papier sur des fichiers carton où les gens posaient leurs empreintes digitales, maintenant à des outils de collation de données absolument démesurés.
Oui, et puis j'ai beaucoup parlé de la Chine, mais les États-Unis, les révélations de Snowden, elles font assez froid dans le dos, hein, dans la mesure où c'est vraiment a été mis en place des systèmes de surveillance de masse extrêmement élaborés, extrêmement inquisiteurs, quoi. Enfin, ça fait. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui avait été fait sur Snowden, là, au moment où il parle aux journalistes du Guardian, mais c'est affolant, quoi. Là, ce qu'il raconte, les systèmes X-Core, Prism, tout ça, c'est. Alors après, en effet, moi j'ai des amis j'ai un ami notamment dans les services de renseignement qui me dit oui, mais en effet, ça peut faire peur, mais il faut toujours penser qu'il faut des personnels derrière, etc. Mais une fois, il m'a fait une démonstration. C'était comme un moteur de recherche, hein. Donc c'est et les États-Unis sont une démocratie, hein, donc a priori. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ce genre de choses. Et il faut des garde-fous. C'est bien que des associations ou des gens, en effet, disent et ben voilà quelles sont les limites, quoi. Enfin, en tout cas, essayent de faire. De mettre des limites. Voilà. Je pense que c'est devenu, en fait, en plus, la data, la donnée, hein, est devenue, et notamment, par exemple, en matière de santé, et on parlait d'objets connectés, là, il y a beaucoup d'objets connectés, de projets qui sont sur la santé. Les toilettes, les miroirs connectés, etc. C'est une nouvelle or de la. C'est un nouvel Eldorado, hein, ces data. Parce que ça va connecter. Et d'ailleurs, toutes les grosses boîtes comme Google se sont mises sur le marché de la santé à fond, quoi. Si on combine data 5G, etc., ça peut, s'il n'y a pas de garde-fou, ça peut aller très loin, quoi. Donc il faut faire attention.
Ça a été l'obligation de laisser installer chez soi les compteurs connectés de distributeurs d'eau, de gaz, d'électricité. Ces fournisseurs récupèrent ces données et savent exactement ce qui se passe dans tous les foyers et à n'importe quel moment. Donc,
Oui,
ce sont des outils
de marketing,
de
d'accord.
marketing absolument extraordinaire. Alors, ça peut servir à réguler la production d'énergie ou à réguler la distribution d'eau. Mais je discutais il y a quelque temps avec le directeur régional d'EDF qui disait qu'en fait, l'installation des compteurs connectés, ça devait permettre de faire stocker l'énergie dans les batteries des voitures et de récupérer cette énergie au moment où il y en a besoin pour les entreprises.
D'accord.
Et donc là, il n'y a plus rien à y faire. Enfin, le propriétaire de la voiture, le propriétaire des batteries, est complètement dépendant de l'utilisation que va en faire son fournisseur d'électricité.
Ah oui, d'accord.
Et qui va lui dire, bah, toi, de 12 h à 14 h, bah, tu ne peux pas utiliser ton lave-linge parce qu'il consomme trop. Telle usine qui est à côté, ou tel hôpital, hein, a besoin d'énergie à ce moment-là. Donc on va limiter ta consommation pour permettre la consommation du professionnel, qui lui, bien sûr, va accepter de payer plus cher son énergie.
D'accord. Ah oui. Oui, bah voilà, c'est oui, il faut je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur toutes ces technologies et il y a tout en fait il y a quand c'est gratuit, en fait c'est la formule de je ne sais plus qui donc, qui disait quand c'est gratuit, le produit c'est vous, quoi. C'est exactement ça, quoi. Il faut être vigilant sur ce genre de choses, ouais.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez nous dire davantage?
Ben, moi, vraiment, le point sur lequel j'insiste, c'est la nécessité de débat. Voilà. Je pense que je plaide pour vraiment, alors évidemment, lire mon livre, bien sûr, mais je plaide pour des débats citoyens, enflammés, les gens parlent. Parce que, en plus, on n'a pas souvent l'occasion de débattre de ces questions de technologie. En fait, moi, j'ai souvent l'impression que c'est soit entre spécialistes, soit c'est des débats assez stériles, et ça a quand même des implications, enfin, ça, pas quand même, ça a des implications dans la vie de tous les jours. Sur nos façons de penser, sur nos façons d'apprendre, ça a des implications. Les téléphones ont des implications sur l'apprentissage des enfants. Voilà, donc il faut pouvoir parler de tout ça. Et donc vraiment, moi je plaide pour qu'il y ait. Peut-être que c'est, ça serait. Je pense qu'il faut peut-être prendre modèle sur Paris et qu'il y ait des municipalités qui s'emparent de ça et qui organise des débats citoyens, voilà, dans les quartiers, dans les centres-villes, un peu partout, ouais. Que vraiment que les gens s'emparent de ça, quoi. Et qu'on ne soit pas passif par rapport à ça, qu'on ne considère pas que bon, bah, les opérateurs veulent nous vendre des trucs, ok, d'accord, on va faire le dos rond pendant quelques temps, puis après on va prendre. Ah non, non, emparons-nous du sujet, emparons-nous du sujet, discutons. Il y a des choses très bien dans les nouvelles technologies, puis il y a des choses moins bien. Voilà.
Eh bien, pensons à acheter ce livre très intéressant, très documenté, La 5G, Mauvaises ondes, qui est édité par les éditions Massot et écrit par André Dreyfus. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, et puis à mardi prochain. Au revoir, merci Antoine.
Merci, au revoir.